Bonjour et bienvenue sur FM Plus dans notre magazine hebdomadaire Parcours Grand Débat. André Bourguet au micro. Nous reprenons comme chaque mois le cours conférence de la faculté de théologie protestante de Montpellier sur Luther. Après deux émissions sur Luther et l'écriture, entendons la Bible, je vous propose un triptyque, en trois sciences bien sûr, sur Luther et les autres sphères religieuses. En commençant avec le père Jean-Robert Armogat sur Luther et les catholiques, le rendez-vous manqué. Jean-Robert Armogat a une impressionnante carrière universitaire achevée à l'école pratique des hautes études et Christelle Bernat qui l'introduisait précisait que c'est la première fois qu'il professe dans une faculté de théologie protestante. Nous l'écoutons.
Oui, pour être tout à fait exact, j'ai souvent été invité là où j'ai fait mes études, c'est-à-dire aux facultés de théologie catholique et protestante de Strasbourg. J'appartiens à un groupe de travail sur l'histoire de l'exégèse à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, où j'ai fait mes études en parallèle avec la faculté catholique. Mais en effet, c'est la première fois, en dehors de l'établissement d'État public de Strasbourg, je suis invité dans une université de théologie, probablement trop laïque pour les catholiques, trop catholique pour les protestants, je n'en sais rien. Enfin, donc, merci infiniment de m'avoir invité pour trois raisons. D'abord, c'est une faculté de théologie, et j'en suis heureux. Ensuite, c'est à Montpellier, et je suis originaire de Chamborigo. Donc, voilà, nous sommes quand même voisins. Et puis, enfin, il s'agit de parler de Martin Luther, sur lequel je travaille depuis un certain nombre d'années. Et ça me paraît extrêmement passionnant et merci de me donner l'occasion d'en parler. Parce que plus que tout autre, Luther a cristallisé l'attention des catholiques, sa personnalité, ses écrits, sa pensée théologique, son rôle politique ont été autant de facteurs déterminants pour le constituer en figure phare de l'ensemble des réformes européennes au détriment d'autres théologiens, parfois plus profonds ou plus radicaux ou plus conscients des enjeux de fond du mouvement réformateur. Et je dirais, je le dis souvent, plus qu'une personne, Martin Luther, selon l'heureuse formule de Lucien Febvre, est un destin. Alors, mon maître et ami Richard Stauffer, qui enseignait l'histoire de la réforme à l'école pratique des hautes études, dont Hubert Bost est un successeur, Richard Stauffer a analysé en 1966 l'évolution des recherches catholiques sur Luther de 1904 à Vatican II. Alors, je ne vais pas le refaire, d'autant plus que vous avez eu le cours de Philippe Molac, le 19 octobre, sur cette transformation de l'image du réformateur dans l'opinion catholique. Je voudrais plutôt faire quelque chose de relativement original, me semble-t-il, montrer en quoi les écrits de Martin Luther ont marqué l'évolution interne de la théologie catholique dès le XVIe siècle. Il convient pour cela de passer outre aux échanges polémiques, à l'argumentation de controverse que les camps opposés ont développée, sans toutefois la rejeter complètement. Une polémique n'est jamais totalement subjective. Elle transporte toujours une partie de la sédimentation originelle. Et un choc en retour se produit toujours à l'intérieur de chaque partie, comme si la flèche décoché contre l'adversaire, devenait un boomerang et frappait l'archer autant que la cible. Une polémique n'est jamais stérile. Elle est parfois douloureuse, mais elle n'est jamais stérile. Et on pourrait dire, en gros, que depuis les grandes controverses trinitaires et christologiques des premiers siècles, qui ont conduit conciles et théologiens à affiner la profession de foi chrétienne, en définir les contours avec plus de netteté, la théologie chrétienne n'avait pas connu de contestation, d'hérésie, entre guillemets, aussi importante que le mouvement réformateur du XVIe siècle. Affirmation probablement trop générale pour être exacte, mais la hauteur des bastions élevée par les décrets du Concile de Trente, du côté des catholiques, témoigne du degré d'inquiétude éprouvé par les tenants d'une orthodoxie romaine. Disons que s'il n'est pas techniquement exact que c'est le plus grand mouvement de réforme dans l'Église depuis les conciles des premiers siècles, c'est du moins l'impression que les protagonistes en ont eu. Et j'ai souvent essayé, comme historien, de me placer, de me situer du point de vue de ceux qui faisaient l'histoire, et pas seulement d'un point de vue de Cyrus, d'un point de vue du XXIe siècle. Or, la réformatio mise en œuvre par Martin Luther et développée dans des directions parfois très diverses par d'autres, ne visait pas seulement, je vais insister à plusieurs reprises là-dessus, mais on vous l'a déjà dit certainement plusieurs fois, ne visait pas seulement la réforme des abus. Sans doute, le XVIe siècle assiste à des réformes, et en témoignent d'ailleurs toutes les mesures de réforme du Concile de Trente, autant que l'encadrement de la réformation protestante. Mais l'explication est ici trop générale. Je ne m'attarderai pas non plus sur les raisons socio-économiques, jadis, naguère, avancées comme décisives, aujourd'hui reléguées dans la friperie marxiste, à tort d'ailleurs, car ces raisons existent, même si elles ne sont pas décisives. On a, en rejetant un certain nombre de choses du côté du marxisme, on a jeté le bébé avec l'eau du bain et on a essayé d'évacuer totalement ces circonstances socio-économiques qui ont eu leur importance, mais qui n'ont pas été décisives. La réponse culturelle est aussi très tentante. L'invention de l'imprimerie n'a pas eu seulement des conséquences quantitatives. L'imprimerie, dans ses débuts, sortait moins d'exemplaires que les scriptoria monastiques de manuscrits, de sortaient de manuscrits. Les gens qui, pendant, lorsque des dizaines de moines écrivaient pendant toute la journée des manuscrits, ils sortaient de nombreuses copies, plus nombreuses que ne sortait un imprimeur qui, laborieusement, une page après l'autre, imprimait son bouquin. Les conséquences furent aussi qualitatives. On a pu lire davantage, et surtout tout seul, sans recourir à la lecture collective, tout seul, pour les gens qui savaient lire, pour l'infime pourcentage de ceux qui savaient lire. Les livres de piété furent dès les origines, vous le savez, massivement présents dans la production imprimée, en premier lieu la Bible latine. Mais la demande de pouvoir lire l'écriture en langue vulgaire fut mise en œuvre bien avant Martin Luther. 22 versions allemandes de la Bible ont paru entre 1466 et 1520. La traduction de Maintelin, faite sur le latin, parut en 1466, de la Bible traduite en allemand, et connut 14 éditions entre 1466 et 1520. La première traduction italienne date de 1471, en néerlandais 1477. Une version complète en français est parue dès 1487. Autrement dit, la diffusion des écritures en langue vulgaire précède la vague des réformes protestantes, et non l'inverse. Elle a certainement contribué à affaiblir le monopole magistériel du clergé. Or, au même moment, on l'a souligné, le sacerdoce était dévalué, mais ce qu'il faut rappeler, c'est largement par une polémique interne, sous les coups portés par les ordres religieux contre le clergé séculier. Et la piété individuelle, nourrie de l'écriture, se répand en Europe dès la fin du XVe siècle. Réformes populaires, réformes intellectuelles, réformes politiques, paysans, clercs, princes furent tous touchés de manière différente. Mais aucun secteur de la société n'est resté indifférent au phénomène, ce qui explique l'impossibilité d'une solution unicausale. Alors, je ne vais pas reprendre la question quaestio trita, la question tant de fois traitée des origines des réformes, mais j'insiste, il convient de réviser cette idée qu'on trouve chez les partisans comme chez les adversaires. Le mouvement des réformes protestantes aurait été provoqué par le souci de porter remède à des abus de discipline ou à des étrangetés doctrinales. Cette causalité négative est insuffisante, j'y insiste. Les réformes sont la conséquence nécessaire d'un mouvement positif. C'est parce que des chrétiens ont voulu prendre au sérieux les exigences du christianisme que la réformation de l'Église est imposée, et s'est imposée. Les origines de cette évolution sont mêlées. On y trouve la montée de l'humanisme, celle du nationalisme allemand, une Europe du Nord contre l'Europe du Sud, l'histoire n'est pas nouvelle, et les influences de mouvements spirituels. Alors, je ne reviens pas sur cette question des origines de la réforme, je voudrais seulement souligner que l'on ne peut pas limiter l'action de Martin Luther à des points de discipline ecclésiastique ou, comme l'ont fait d'autres, à une attitude de piété individuelle. Luther est un théologien dont la pensée est à la fois profonde et structurée. J'ai souvent eu l'occasion de le dire, j'ai fait une mission de télévision quelques années sur la foi de Martin Luther, et je pense, comme plusieurs théologiens catholiques l'ont dit, Augustin, Thomas d'Aquin, Luther, les trois grands théologiens de la tradition chrétienne. Cette pensée a évolué, et nous sommes tous tentés, moi le premier, de privilégier der Jung Luther, le jeune Luther, aux dépens du réformateur plus âgé. Et il faut prendre cette pensée dans son évolution, dans sa longue durée, dans ses contradictions. De surcroît, Luther ne voulut pas imposer une autorité centrale, et si des pays entiers, comme l'Angleterre ou la Suède, passèrent aux réformes religieuses, clergés et monarques coopérants, il n'en fut pas de même en territoire germanique, où une grande partie des évêques ne suivit pas le mouvement. Le maillage territorial romain fut donc réduit en lambeaux. Lorsque, après la diète de Spire, en 1526, il fut clair que les évêques ne suivraient pas le mouvement, princes et villes libres s'unirent pour réorganiser un tissu ecclésial sur leur territoire, pour les paroisses comme pour les écoles. Et Luther exhorta les lecteurs de Saxe à organiser une grande visite ecclésiastique de son état. Melanchthon fut un des visiteurs, il passa un mois en Thuringe pour rencontrer les prêtres et il fut le principal rédacteur des articles de visite qui furent approuvés par Luther et par Bugenhagen, docteur Pomeranus de Silésie, et publiés en 1528 avec une préface de Luther. Alors, les sources et la méthode. Premier point, les sources et la méthode. Alors, le premier constat est que l'ampleur et la profondeur du mouvement réformé ont eu des conséquences majeures sur les méthodes théologiques dans le christianisme. En premier lieu, un recours renouvelé à l'écriture. Ce recours a entraîné au début des débours. La polémique scripturaire se déroula autour d'une interprétation littérale de l'Écriture, conduisant à abandonner la richesse de l'interprétation médiévale des quatre sens. Et il faudra quatre siècles pour sortir de l'ornière littérale et retrouver au XXe siècle les interprétations spirituelles. Bonaventure écrit « Dans tous les livres de l'Écriture sainte, on saisit, outre le sens littéral, celui qui exprime les mots mêmes du texte, un triple sens spirituel, l'allégorique nous enseigne ce qu'il faut croire de la divinité de l'humanité du Seigneur, le moral nous enseigne comment vivre, l'anagogique comment nous attacher à Dieu, le premier concerne la foi, le second la conduite, la troisième leur fin commune. Un seul exemple, la résistance à l'héliocentrisme, Copernic-Galilée, chez les protestants comme chez les catholiques, fut une des nombreuses failles de ce système interprétatif collé au sens littéral. En second lieu, le débat poussa les catholiques romains à recourir aux sources patristiques pour retrouver chez les anciens auteurs des éléments catholiques et pouvoir ainsi dénoncer la nouveauté des réformateurs. N'oublions pas qu'à cette époque, jusqu'au XVIIIe siècle, la nouveauté est suspecte. Elle n'a plus le lustre qu'elle a acquis aujourd'hui. Aujourd'hui, tout nouveau, tout beau. Bon, au XVIIe siècle, ce qui est nouveau est louche. Ce qui est bien, c'est ce qui est antique. Et ce qui conduit les historiens réformés à se donner une antériorité, une antiquité historique dans une filiation douteuse des mouvements de libre-esprit dont la discontinuité est avérée, mais il fallait se donner cette dimension historique, cette antiquité du mouvement réformateur. Enfin, le troisième point à l'intérieur de ce premier point, la méthode. La méthode, eh bien, le génie de Mélenchon, moi j'ai un faible pour Philippe Mélenchon, le génie de Mélenchon fut de rédiger une dogmatique réformée à partir des lieux théologiques et non pas à partir des questions. Le grand ouvrage de dogmatique médiévale, Les Sentences de Pierre Lombard, qui a été évêque de Paris, était une série de questions. Et Thomas d'Aquin a rompu avec cette tradition en proposant un autre ordre, ce qu'il appelait une somme de théologie, avec lui aussi des questions, mais qui n'était plus le même ordre que les sentences du Lombard. Or, Mélenchon a eu l'idée, Mélenchon qui avait étudié les sentences du Lombard, a eu l'idée de rédiger des lieux communs, un livre magistral, qu'il a remanié en permanence, en ayant à partir de 1533 un plan historique. Et au cœur de cet ouvrage capital, c'est la notion d'ordre, ordo. L'ordre des connaissances, une taxinomie, si vous permettez le terme, une mise en ordre du savoir qu'il allait parcourir avec méthode. Je cite Mélenchon, je traduis, « En voyant ces grandes et nécessaires matières, si divinement expliquées dans nos églises par des hommes pieux et savants, j'ai tenu à les rassembler des différents écrits où elles se trouvaient dispersées et à les exposer, quodam ordine, par un certain ordre, afin qu'elles puissent être plus facilement comprises par les jeunes gens. J'ai pensé en effet que dans la fonction académique d'église qui est la mienne, ce travail, ou plutôt ce pinsum, me revenait. Bon. » Donc ce que Mélenchon veut faire, c'est une mise en ordre, quodam ordine, selon un certain ordre, de l'ensemble de la théologie, de manière à ce qu'elle puisse être enseignée facilement, Mélenchon, préceptor germanié, le précepteur de l'Allemagne. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, et Mélenchon va à plusieurs reprises remanier cet ordre dans différentes éditions des Loci Comunes. Et ce travail de Pénélope, qui valut à son auteur de ravir à Aristote le titre d'artifex methodi, d'artisan de la méthode, a conduit du côté catholique un dominicain espagnol à proposer pour la dogmatique catholique des Loci Comunes. Le manuel de Melchior Cano, qui paraît, CANO, qui paraît en 1563, connu près d'une trentaine de rééditions jusqu'en 1890. Donc l'apport patristique est très important et il est distinct des autorités scolastiques et il y a un recours plus large à l'écriture. Donc là, il y a eu, si vous voulez, sur ce point, je résume ma première question, mon premier point, il y a eu, dans l'ordre des méthodes de théologie, un apport décisif des Loci Comunes de Mélenchon qui a conduit la théologie catholique à adopter le même type, d'une certaine manière, à renoncer à l'ordre médiéval et adopter cet ordre nouveau, celui des lieux communs. Deuxième grande partie, la parole de Dieu. Bon, c'est par facilité que je commence par elle. En réalité, la justification par la foi devrait, dans le développement génétique de la pensée de Luther, précéder les Écritures. Mais c'est un lieu commun que d'insister sur l'importance de l'Écriture pour Martin Luther, l'autorité souveraine des Saintes Écritures. Du reste, c'est un bibliste. Il commence sa carrière d'enseignant à Wittenberg comme lecteur pour l'Écriture sainte, enseignant les psaumes, puis l'Épître aux Romains, celle des Galates, celle aux Hébreux. Et entre 1522 et 1534, enfin, pendant une douzaine d'années, avec des collaborateurs, il entreprend la traduction allemande de toute la Bible. Il est important de souligner qu'à la différence de ce que elle deviendra dans ce qu'on appelle l'orthodoxie luthérienne au XVIIe siècle, chez un auteur comme Gerhardt, dans la scolastique luthérienne, l'écriture est autorité en matière de foi. Ce n'est pas le cas chez Luther. chez Luther, elle est une intuition vivante, elle est une intuition personnelle. Ce qui ne ramène pas pour autant la foi de Luther à un simple subjectivisme. On a souvent accusé subjectivisme. En réalité, au principe de la réforme de Luther se trouve la reconnaissance de la parole de Dieu comme unique source du salut. Et cette parole de Dieu n'est pas uniquement l'Écriture. La parole de Dieu se confond avec sa sagesse. Et la sagesse qui n'a jamais cessé de se donner à entendre. Il y a un très beau livre qui n'existe qu'en anglais, qui n'a pas été traduit, d'un exégète presbytérien d'origine française, Samuel Terrien, qui est mort en 2002, The Elusive Presence, dans The New Biblical Theology, la présence cachée, qui développe ce thème d'une sagesse qui n'a jamais cessé de parler à l'humanité. Et pas seulement dans la Sainte Écriture. En réalité, elle s'est révélée aux hommes dans l'Ancienne Alliance par des Écritures, mais lorsque les temps furent accomplis, elle s'est révélée dans l'Incarnation. Le Dieu fait homme n'a rien perdu de sa divinité tout en assumant l'humanité, et c'est ce que j'appelle avec d'autres l'inverbération de Dieu dans l'humanité, l'incarnation de la parole, l'inverbération de Dieu dans l'humanité. Comme la divinité dans l'incarnation, la parole assume l'écriture sans rien perdre de sa divinité, sans rien perdre de son origine, ce qu'on appelle le mystère théandrique, à la fois Dieu et homme. L'écriture, le Christ est Dieu et homme, l'écriture est divine et humaine. Il y a un mystère théandrique de l'écriture qui dépasse la seule réalité de ce qui est écrit, mais qui va bien au-delà, et qui est la sagesse divine, écrite comme le fils d'Ésaïe, en caractère humain, sur sa main. Et ça, c'est un grand classique, profondément augustinien, profondément médiéval. Et je ne retiens qu'un seul exemple qui est intéressant, qui est dans un sermon d'Augustin. Augustin prêchait le dimanche à son assemblée, plutôt longuement d'ailleurs, parfois il s'en excuse, il dit « j'étais un peu long, mais j'ai encore des choses à vous dire, bon, etc. » Et là, c'était sur le psaume 103e. Alors sur le psaume 103e, il commence par dire « Souvenez-vous de ceci, une unique parole de Dieu est répandue dans toutes les Écritures, ou nos sermos dei. » In scripturis omnibus dilatatus, une seule parole qui est dilatée dans les Écritures. Un unique verbe est prononcé par la bouche des saints qui, alors le verbe qui, étant au commencement Dieu auprès de Dieu, n'a pas de syllabe, car il n'y a pas d'instant. Le langage se développe dans le temps, les syllabes c'est une succession d'instants. Or là, la sagesse éternelle, le Fils éternel, est au-delà du temps. Il n'y a pas lieu de nous étonner qu'il soit descendu, en raison de notre faiblesse, dans les particules de nos sons, comme il est descendu dans les membres de notre corps. Donc un seul exemple, je pourrais en donner une dizaine d'autres, mais un seul exemple qui me paraît le plus fort dans cette force rhétorique d'Augustin, le Verbe de Dieu, qui est descendu dans les membres de l'humanité, est aussi descendu dans les syllabes de l'Écriture. Et ça, c'est tout à fait important, et c'est quelque chose qui est dans la très grande tradition chrétienne. Troisième point, la grâce. L'ampleur des débats dans l'Église catholique sur la grâce et la liberté est bien connue. Il suffit de mentionner l'essai de Concordia, tenté par le jésuite Molina en 1588, rappeler ce qu'on appelle les congrégations De Auxiliis sur les instruments qui aident au salut entre 1602 et 1605, le pavé de Jansénus sur Augustin en 1640, le conflit autour du jansénisme qui s'ensuivit entre jésuites molinistes, partisans de la Concordia de Molina, et jansénistes, partisans de Saint-Augustin, comme il se désignait. Alors, il faut reconnaître que, précisément, depuis les grands textes d'Augustin, la question n'avait guère été aussi largement débattue. Or, le point d'incandescence qui a embrasé les théologiens catholiques est bien le débat sur la justification suscitée au Concile de Trente par la nécessité de réfuter Luther. Et là, une sorte de boîte de Pandore a été ouverte qui a troublé tous les chrétiens. Le synode de Dordrecht, en 1618-1619, n'a pas mis fin, qui est la victoire d'une tendance plus stricte des réformés contre des tendances plus libérales, les arminiens. Ce synode de Dordrecht n'a pas mis fin au débat interne des réformés. Et là, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je vais rappeler quand même que la justification par la foi, cet article Stand, dicet cadendis ecclesiae, l'article, la pierre de touche de l'Église, comment espérer survivre au jour inévitable du jugement devant le tribunal d'un Dieu absolument saint et juste, là, je cite Calvin, tous les pécheurs seront abattus et confondus. Alors, soyons clairs. Luther affirme, avec toute la tradition catholique, au sens large du terme, que le salut ne vient que de Dieu seul, et qu'il est donné gratuitement. Une première conséquence, très importante, est ce qu'on pourrait appeler le personnalisme. Ce que Luther reproche au catholicisme romain de son temps, c'est, d'une part, d'avoir multiplié des intermédiaires entre Dieu et l'homme, le clergé et les saints, et d'autre part, de proposer des ressources humaines susceptibles de se substituer aux dons gratuits de Dieu, les œuvres, les indulgences. Le pélagianisme, auquel Augustin s'est opposé avec tant de vigueur et de rigueur, était un mouvement ascétique. Les pélagiens n'étaient pas des libertins, au contraire, c'était des gens extrêmement stricts, très sévères, qui soutenait que les pénitences, les macérations, les jeûnes, les sacrifices volontaires que l'homme pouvait s'infliger, situation que Martin Luther a connue comme jeune moine, pouvaient contribuer à un salut qui serait alors à portée de main humaine. C'est un peu la question du jeune homme riche de l'Évangile. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Et la réponse de Jésus, c'est qu'il n'y a rien à faire. Tu ne peux rien faire pour obtenir la vie éternelle. Tu ne peux rien faire d'autre que d'être sous la main de Dieu. Et à vouloir dépasser cette réponse, on s'engage sur des voies glissantes, aussi bien pour les catholiques que pour les réformés, de différents types de prédestination, jusqu'à la difficile double prédestination pour les élus et pour les damnés de certains réformateurs et l'élection inconditionnelle de Jean Calvin. C'est la prédication de la parole qui éveille la foi dans les cœurs. Et je voudrais citer de nombreux textes de Luther pour illustrer cela, dont de très beaux passages de la liberté du chrétien ou du sermon sur les bonnes œuvres. Dieu t'offre en lui sa miséricorde avant que tu n'aies rien fait pour la mériter, dit Luther, en commentant un texte de Paul. Dieu nous a manifesté toute la douceur et la bienveillance de son amour en faisant mourir Christ pour nous, bien que nous fussions pécheurs. Il n'empêche, comme Matthieu Arnold l'a tout récemment montré, une communication à l'Académie des Inscriptions, que la théologie de Luther se présente comme une éthique et que Luther proclame les bonnes œuvres envers le prochain. Un homme bon et juste fait des œuvres justes. Cette phrase du traité de la liberté du chrétien peut résumer l'enseignement éthique de Martin Luther. La foi suffit au chrétien qui n'a besoin d'aucune œuvre pour parvenir au salut. Mais si elle rend l'âme conforme à la parole de Dieu, le corps reste soumis aux exigences de la nature. Et si l'homme intérieur est libre, l'homme extérieur doit être dompté, crucifié par des jeûnes et des pénitences. Les œuvres ascétiques, comme les œuvres de charité, ne sont pas nécessaires pour justifier le croyant. Mais le chrétien ne vit pas en lui-même, il vit en Christ et dans son prochain, dans le Christ par la foi, dans le prochain par la charité. Et si les bonnes œuvres, je me répète, ne sont pas nécessaires pour le salut, elles sont les conséquences de celui qui est habité par la foi, qui va le conduire aux œuvres de charité. Et là-dessus. Alors, justement, dans la correspondance, Luther revient sur cette image de la foi comme source, fontaine, de toutes les bonnes œuvres qui visent au service du prochain.
Le réseau FM+, radio associative régionale, émettant sur Montpellier et Nîmes, le père Jean-Robert Armogat, dans un exposé sur Luther et les catholiques, le rendez-vous manqué, vient de resituer le thème du salut par la foi seule, cher à Luther. Il en vient maintenant à la question de l'Église.
Point suivant, l'Église, l'ecclésiologie de Martin Luther. Elle est au centre d'un vaste débat. Dès 1518, opposant un de ses adversaires les plus intelligents, Cajetan, Thomas de Viau, Luther oppose à l'Église comme institution, l'Église comme conscience du salut. Alors il faut rappeler la suite de ces débats sur l'Église. Constamment, Luther défend une ecclésiologie des fidèles en Christ contre une ecclésiologie de société constituée. Il souligne, ce qu'on a parfois oublié dans la tradition luthérienne, que l'appartenance à l'Église ne saurait être visible. Je cite, « L'Évangile est avant le pain et le baptême, le symbole unique, très certain et très noble de l'Église, puisque par le seul Évangile, elle est conçue, confirmée, nourrie, engendrée, élevée, menée paître, vêtue, ornée, fortifiée, armée, conservée, en un mot, brevitaire, tota vit et substantia ecclesiae est in verbo Dei. Toute la vie, la substance de l'Église est dans le Verbe de Dieu. Donc l'Église est bien creatura verbi ou creatura evangelii. Mais, ceci est vrai dans l'œuvre de Luther. Il y a pour autant une autre formule très forte. En 1539, le traité sur les conciles et l'Église, il n'y a pas de parole de Dieu sans un peuple de Dieu, Gottes Wort kann nicht ohne Gottes Volk sein, comme il n'y a pas de peuple de Dieu sans une parole de Dieu, wiederum Gottes Volk kann nicht ohne Gottes Wort sein. Il n'y a pas de parole de Dieu sans un peuple de Dieu, comme il n'y a pas de peuple de Dieu sans une parole de Dieu. Alors l'opposition peut paraître frontale à ce point entre une ecclésiologie luthérienne où la foi constitue l'Église et une ecclésiologie romaine où l'Église constitue une société accomplie, societas perfecta. L'expression a souvent été traduite à tort comme société parfaite. Non, c'est une société accomplie, c'est-à-dire qui se suffit à elle-même. Ça ne veut pas dire qu'elle soit parfaite, mais une société societas perfecta, l'expression veut dire une société qui est achevée, perficere, conduire à bon port. Tel est le constat dans la polémique. À y regarder de plus près, les thèses sont moins opposées qu'elles ne semblent l'être. D'autant que longtemps, l'Église est désignée par Luther comme l'unique épouse du Christ. Ecclesia, de Kirche, est longtemps utilisé par Luther, des Kirche avec l'article, comme l'Église, l'unique Église du Christ. Alors, pour lui, l'Église romaine, à partir de 1519, 1520, est dans l'erreur, mais il continue jusqu'en 1524, 1525 à parler de Ecclesia, à parler de l'Église. Dans un texte aussi polémique que celui que je viens de citer, des Conciles de l'Église, le texte 1539, il dit bien que le pape a déserté l'Église, qu'il s'est exclu de l'Église et que ses partisans sont les pires ennemis de l'Église. La polémique contre l'antéchrist romain n'est pas seulement une insulte. On essaie souvent de dire « Ah ouais, mais quand il traite le pape d'antéchrist, c'est évidemment c'est très excessif finalement. Bon. » Non, alors, disons bien, ce n'est pas une insulte, c'est une définition théologique. Autrement dit, le pape antéchrist est celui qui va amener la destruction de l'Église, car Luther est profondément attaché à l'Église. Alors, à ceux qui crient, dit Luther dans ce même traité, l'Église, l'Église, il oppose la proximité du jour du jugement qui révélera leur imposture. Et Luther, dans ce même traité des conciles de l'Église, Wir sind die Kirche, c'est un slogan des luthériens allemands, nous sommes l'Église, sauf qu'il faut ajouter, ce que dit Luther, oder in den Kirchen, ou dans l'Église. Nous sommes l'Église, nous sommes dans l'Église. Wir sind die Kirche, oder in den Kirchen. So die Papisten wollen lassen zugrund gehen, auf das sie bleiben, que les papistes veulent laisser tomber, veulent détruire. Alors, les traités sur l'Église en théologie chrétienne sont tardifs. Contrairement à ce qu'on peut penser, l'ensemble de la patristique, de la première scolastique, ne traitait de l'Église qu'à l'intérieur des sacrements. C'est parce qu'on parlait des sacrements qu'on était conduit à parler de l'Église. Et on dit habituellement que les plus anciens traités des Ecclésias remonte à la première moitié du XVe siècle, à peu près. Pour Augustin, comme pour les grands scolastiques, l'enseignement sur l'Église était l'enseignement lié au sacrement et l'Ecclesia Christi était plus large que l'Église de Rome. Alors, bien sûr, Cajetan défend contre Luther, dans la polémique qu'il oppose à Luther, une Église d'autorité dominée par le pape. Mais la position de Cajetan lui-même est plus subtile. Et à côté de ses écrits polémiques, quand on lit ses commentaires de l'Écriture, ses commentaires de la Somme théologique, on se rend compte que Cajetan a une ecclésiologie qui est distincte de l'ecclésiologie de combat qu'il oppose à Luther. Grâce à Dieu, la pensée de Cajetan est plus subtile que les arguments polémiques qu'il développe. Il se battait sur deux fronts, Cajetan. D'une part, les juristes gallicans, pour qui la monarchie n'est pas le pouvoir possédé par un seul, mais le pouvoir confié à un seul, dominium principum est ministeriale, ce qui vaut aussi pour le pape, qui va conduire les juristes et les théologiens gallicans à parler de l'autorité du pape, je parle de juristes et de théologiens catholiques, comme auctoritas mutuata, comme une autorité empruntée. Alors, Cajetan va lutter d'un côté contre ces gens-là, et ensuite, sur l'autre front, disons, Luther. Or, en face des gallicans, il souligne, il est intéressant de lire les écrits polémiques de Cajetan contre Luther, mais aussi les écrits polémiques contre les gallicans, parce que contre les gallicans, il soutient que l'Église est fondée sur une personne, le Christ. Et en 1512, dans le sermon inaugural du cinquième concile du Latran, il commente le chapitre 21 du livre de la Révélation sur la Jérusalem céleste. La force des liens dans l'Église, dit-il, est telle que les membres de cette res publica ne sont pas de simples citoyens, mais ils sont concitoyens des saints, membres du seul et même corps mystique, citoyens unis par un lien intérieur plus fort qu'aucune autre société, le vinculum caritatis, le lien de la charité. Par ailleurs, nous observons chez Cajetan, et là c'est caractéristique de son époque, le passage du théologique au politique. À propos du schisme, Thomas avait insisté. Le schisme, c'est ce qui détruit le lien de charité d'une Église compacte. Or, les grands traités des Ecclésias de l'époque moderne vont insister sur le baptême, c'est-à-dire sur l'adhésion physique à un corps social organisé. Pour Thomas, l'Église, c'est ce grand corps compact du Christ, donc un corps cosmique, l'existence cosmique de l'Église, alors que, 15e siècle, les traités des Ecclésias, on va insister sur l'adhésion physique par le baptême à un corps social organisé. Or, la pensée de Luther sur l'Église s'articule sur celle d'Augustin. Les arguments tirés de l'océan d'écrits de l'évêque d'Hippone sont innombrables et parfois contradictoires. Contradictoires dans la durée, simplement parce que, dans sa longue durée et dans l'océan de ses écrits, Augustin a eu des positions polémiques différentes et a insisté sur tel ou tel aspect aux dépens de tels autres. Donc, lorsque les polémiques du XVIIe siècle sur la grâce étaient tirées d'Augustin, on ne retenait que les écrits anti-pélagiens, qui étaient les écrits les plus extrêmes, où il luttait pour affirmer la dimension tragique de la liberté chrétienne. Alors, pour Augustin, l'Église institution est une Église mélangée, l'ivraie et le bon grain croissent ensemble dans le champ. Une Église invisible réunit les vrais chrétiens comme le corps invisible que crée la charité. Et puis, il y a les prédestinés qui peuvent être hors de l'Église, comme Abraham, ou bien ceux qui ne rassemblent pas tous ceux qui vivent dans l'Église, mais qui n'ont pas reçu le don de persévérance. Pour Augustin, il y a des gens qui sont dans l'Église, comme Abraham, et il y a des gens qui, tout en ayant l'air dans l'Église, n'y sont pas, parce qu'ils n'ont pas le don de persévérance. Alors, la théologie catholique a retrouvé le sens du mystère de l'Église inséré dans une histoire du salut. Et on sait que plusieurs théologiens réformés ont théorisé cette histoire du salut, en particulier Oscar Kuhlmann, dans sa Christologie du Nouveau Testament. Et la présentation de la vie de l'Église insérée dans l'histoire permet de mettre l'incarnation au centre de cette histoire, comme le propose Kuhlmann dans Le Christ et le Temps, et dans le livre admirable de Suzanne de Dietrich, qui est un de mes livres de chevet, voyez, Suzanne de Dietrich, Le dessein de Dieu, publié à Neuchâtel en 1945. Je ne saurais trop vous recommander la lecture de ce livre admirable, où elle montre comment Dieu, le récit des Écritures, est tout entier l'économie de la Trinité en œuvre dans l'histoire. Alors, c'est cette appréhension de l'Église qui sera proposée dans la Constitution sur l'Église Lumière des Nations du dernier Concile du Vatican. Et on a pu proposer plusieurs rapprochements entre ce texte, l'Église Lumière des Nations, qu'on appelle une constitution dogmatique, et des convictions de Luther. Par exemple, le fait que les... Alors, et ce qui est en commun, c'est l'origine augustinienne du concept. Par analogie avec les natures du Christ, humaines et divines, l'Église est une réalité complexe, à la fois une société visible, ayant besoin de purification, et une communauté guidée par l'Esprit Saint, de nouveau, la nature théandrique de l'Église, et d'autre part, la conviction de Luther que l'Église existe comme une réalité historique où la vie de l'Esprit s'accomplit de manière réelle et invisible. Ou encore l'affirmation de l'Église comme peuple de Dieu, envoyé par Dieu pour sanctifier le monde, l'Église, comme un sacrement de salut, le texte catholique dit « Ecclesia velut sacramentum salutis », presque comme ce qui pourrait être un sacrement de salut, et la conviction luthérienne de l'Église comme celle de la terre et lumière du monde. Car nous ne devons pas oublier que l'Église invisible n'est pas pour Luther la seule Église authentique. L'objet de la foi n'est pas une Église invisible, mais c'est l'Église visible. Luther se rattache à l'Ancien Testament, l'Église comme peuple de Dieu, et à Paul. De même, la définition romaine du sacerdoce universel des baptisés rejoint une intuition luthérienne, ou encore la présentation eschatologique générale d'une Église en marche vers la communion des saints et plusieurs déclarations des premiers réformateurs sur la Sainte Cène comme communion entre l'Église du ciel et les membres de l'Église terrestre. Point suivant, je ne vais pas m'y attarder, les sacrements, l'importance du baptême et de la scène. Nous constatons chez les théologiens catholiques, en particulier dans la grande thèse de Joseph Ratzinger sur Augustin, peuple et maison de Dieu dans l'enseignement d'Augustin sur l'Église, sa thèse de 1950, publiée 4 ans plus tard, qui développe le thème d'une ecclésiologie eucharistique. Et cette ecclésiologie eucharistique, elle est tout à fait centrale chez un grand penseur catholique allemand qui a été condamné comme moderniste, puis réhabilité sous Paul VI, il a fini Monseigneur, Johannes Hessen. C'est un élève de Max Scheler, et il a son livre sur Luther, 1947, est tout à fait important, accentuant déjà, dès 1947, cet aspect de l'Église eucharistique, comme d'une ecclésiologie eucharistique. Parce que je saute un peu cela pour en parler d'un point dont on parle moins souvent, qui est la liturgie. Comprenons que Martin Luther n'a pas voulu changer la liturgie catholique. Il a voulu la rendre plus proche de ce qu'il comprenait être les principes évangéliques. Il attendit la fin de 1523 pour proposer un nouveau schéma de messe en latin, en réaction, pourquoi il l'a fait ? En réaction à une anarchie qui se développait dans les communautés réformées et qui l'inquiétait. Alors que d'autres réformateurs, comme Zwingli, et nous n'oublions pas que Zwingli et que la réforme zwinglienne est parallèle à la réforme luthérienne. Zwingli présente un personnage extraordinaire qui me fascine. Zwingli présente sa propre réforme de manière indépendante, disons, de la réforme luthérienne. Or, Zwingli a très vite rédigé de nouveaux services. Luther s'est attaché à réformer la messe sans y substituer autre chose. Et il a suspendu sa traduction de l'Ancien Testament pour consacrer 2 mois à rédiger sa formula missae et communionis. Le schéma qu'il propose, c'est très intéressant, il supprime des additions médiévales qui ont été supprimées par le pape Pie V et par le pape Paul VI dans la liturgie catholique. Et il essaie de retrouver une liturgie ancienne par-delà des additions qui avaient été des strates successives qui s'étaient accumulées dans la liturgie. En 1526, il rédige la messe allemande. Mais on oublie les Deutsche Messe, mais on oublie de dire qu'il a toujours pensé que la messe latine devait être conservée et que la messe en langue moderne était destinée aux paysans et aux simples gens. Et il a gardé, de toute façon, dans la messe latine, comme dans la messe allemande, la plupart des introïtes et des graduels de la liturgie latine traditionnelle. Alors là, ça a été, pour faire vite, un échec. Parce que, en dehors de l'Allemagne du Sud et du Sud-Ouest, les églises allemandes ne l'ont guère suivi. Et ont retranché de la Deutsche Messe des éléments que Luther avait conservé. Alors, il y a d'excellentes études sur l'évolution de la liturgie luthérienne, en particulier le très beau bouquin d'un auteur qui se prénomme Luther, Luther Reed, Lutheran Liturgy. Il y a plusieurs ouvrages qui étudient ça. Et je voudrais avouer ceci, je sais que vous en avez parlé, vous en parlerez dans ces cours. Luther n'était pas, à la différence de Cranmer, par exemple en Angleterre, un historien de la liturgie. La base de ses réformes, ça a été son missel, le missel augustin, qui avait des particularités et qui était distinct du missel romain. J'ai eu l'occasion d'étudier le bréviaire de Luther, rappelant les spécificités du bréviaire des Augustins, en particulier les très grand nombre de textes d'Augustin que le jeune moine Luther a lu dans le bréviaire augustinien, qui était le sien, bien avant de lire les traités d'Augustin. Il y avait de nombreuses fêtes liées à Monique, à Augustin, à la naissance d'Augustin, la conversion d'Augustin, la mort d'Augustin, etc., la translation des reliques d'Augustin, la fête de Monique, bon, un certain nombre de fêtes augustiniennes propres à, aux moines, aux ermites de Saint-Augustin, auxquels Luther appartenait. Et de même, le missel Augustin avait des particularités, et c'est ce missel qui a été, ce qu'on oublie souvent, qui a été la base des réformes liturgiques de Luther. Alors, il faut également rappeler, vous l'avez rappelé ici, ou vous allez le rappeler, je ne sais plus, l'importance qu'il accordait à la musique, alors que la différence de Zwingli, il n'était pas musicien. Zwingli était un musicien accompli, il jouait des instruments, il chantait, et il interdit la musique et le chant dans les assemblées, qui étaient davantage des assemblées de la parole que des assemblées eucharistiques, d'ailleurs. Or, l'évolution liturgique de Luther, l'intérêt, la passion de Luther pour la musique, pour les cantiques, pour la liturgie, l'évolution liturgique de Luther qui a été doublée, qui a été dépassée par des initiatives locales qu'il n'est pas parvenu à contrôler, doit se comprendre par sa résistance sur un double front. S'écarter de la liturgie romaine tout en gardant l'essentiel de la tradition et se garder des formes radicales que les réformés ou les anabaptistes lui proposaient, qu'ils voyaient se développer, où le service de la parole occupait tout l'espace cultuel. La réforme tridentine du missel a rejoint plusieurs des réformes initiales portées par Luther sur la messe médiévale. La réforme liturgique de Pie V, entre 1568 et 1570, a consisté par une épuration des rites antérieurs pour ne conserver que les plus anciens, et il y a une grande similitude entre le rituel de 1570 et les rituels médiévaux de Curie, qui ont connu leur apogée au XIe siècle, ce que Luther a essayé de retrouver avec moins de connaissances du reste de l'histoire, de la tradition du missel que les réformateurs romains avaient eu. Alors, j'arrive au terme de ma conférence et je voudrais proposer une sorte de conclusion. Conclusion en disant qu'il y a une double tâche qui doit être devant nous, une tâche historique, celle à laquelle je me suis attelé, et également une tâche théologique dont je ne peux pas faire l'économie. Une tâche historique d'abord, qui est de redimensionner les débats sans anachronisme. L'historiographie, aussi bien protestante que catholique du XXe siècle, est très souvent une projection de nos problèmes, de nos questions sur le XVIe siècle. Or, il faut essayer de comprendre ce qui se passait au XVIe siècle dans une réalité complexe. Alors, ce qui n'est pas, nécessairement, n'est pas obligé, tout croyant n'est pas obligé d'être un historien, mais lorsqu'on fait un peu de l'histoire, il faut se rappeler la complexité de ces problèmes et éviter des solutions simplistes. J'évoquais ça au début, il n'y a pas de cause unique à la réforme, il n'y a pas une simplicité d'opposition en noir et blanc. Nous sommes là dans le clair-obscur de Luther, comme le titre de ce cours nous y invite. Donc, le premier point, c'est une tâche historique, redimensionner les débats, relire les textes qui sont abondants, resituer les polémiques dans leur contexte. Et alors ensuite, une démarche théologique, je dirais, qui est un peu l'inverse, qui est d'actualiser les enjeux, c'est-à-dire ne pas se contenter de faire de l'archéologie religieuse. Ça, c'est important, il faut le faire, c'est ce que j'ai fait pendant 40 ans. Mais aussi actualiser les problèmes aujourd'hui, en termes de, là je suis dans un domaine théologique et pastoral qui est le mien dans une autre sphère, actualiser les enjeux dans le domaine du rapport à l'écriture, du rapport à la prière, des œuvres de charité, etc. Et alors, je crois que l'intérêt de ce à quoi on assiste depuis une quarantaine d'années, c'est d'élaguer le superflu, d'élaguer l'encombrant héritage des polémiques. Je crois que ça a été clair dans différentes rencontres œcuméniques, au Dombes, le traité sur la justification, les rencontres avec l'Église d'Angleterre. J'ai eu l'occasion l'autre jour de rencontrer le révérend Welby, archevêque de Canterbury. Il convient de délaguer, disais-je, l'héritage des polémiques pour permettre d'identifier les différences. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de différence, tout ça, ça se ressemble, un vaste melting pot, mais on ne peut reconnaître les différences que si on élague tout ce qui traîne autour, tout le superflu, pour essayer de discerner les contradictions véritables et de les replacer dans avec un double souci. Un souci d'abord du pluralisme terminologique. Car souvent, on se braque sur des mots, sur des formules. J'ai eu l'occasion d'expliquer que, par exemple, une des tragédies de... Ça c'est une autre conférence que je dois faire dans quelques semaines, donc je ne vais pas vous la faire ce soir. Une des tragédies de la Réforme a été, pour les catholiques, que se sont trouvées proscrites des expressions exactes qui étaient traditionnelles dans le christianisme, mais qui étaient devenues le monopole des réformes protestantes. Par exemple, Église primitive, prima eva ecclesia. Église primitive, bannie du Concile de Trente, bannie de la tradition catholique post-réformation, parce que c'était une expression protestante, alors que c'est une expression qui est commune, le lot commun du christianisme. Vous voyez, de même, il est clair que des excès se sont produits contre la parole de Dieu, contre la lecture de la Bible, par une réaction, ce qu'on appelle justement la contre-réformation. Il y a eu une réformation catholique, il y a eu des réformes catholiques, et une contre-réformation, une opposition, et ça c'est un grand dommage, parce qu'on a perdu dans la terminologie, dans l'expression, et même dans la conceptualisation, un certain nombre de choses, pour des raisons de polémique anti-protestante. Et du côté protestant, pour des raisons de polémique anti-catholique, on a perdu, je pense que certainement... souvent en liturgie, on a perdu un certain nombre de richesses pour ne pas adopter des formes qui pouvaient sembler être des formes catholiques. Donc, d'abord, cette reconnaissance d'un pluralisme terminologique. Essayons de comprendre et d'utiliser les mots en comprenant qu'il n'y a pas de mots maudits, de mots damnés, mais qu'il y a des réalités derrière ces mots qui sont communes à l'ensemble des confessions chrétiennes. Ce qui ne doit pas empêcher une rigueur théologique qui me paraît tout à fait essentiel pour le dialogue. Pour qu'il y ait un dialogue, il faut que chacun sache de quoi il parle et de quoi l'autre parle. Donc il me semble que pluralisme terminologique et rigueur théologique doivent aller de pair. Et je crois que mon contrat est achevé puisqu'il est...
Sur FM+, antenne de Montpellier, nous venons d'entendre le professeur Jean-Robert Armogat, spécialiste d'histoire religieuse, sur Luther et les catholiques, le rendez-vous manqué. Jean-Robert Armogat était l'invité de la faculté de théologie protestante de notre ville, dans son cycle d'études sur Luther, Luther en clair-obscur. Au revoir et à bientôt sur FM+, dans un prochain parcours.